101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'ignorance généralisée, massive de leur histoire ne permet pas aux gens de savoir où ils sont, qui ils sont. Ils sont aliénés, les enseignants qui devraient être une profession d'émancipation, de libération des esprits. Ces gens sont eux-mêmes aliénés. Ils savent pas très bien où ils sont. Comment voulez-vous qu'ils apprennent à leurs élèves où ils sont eux-mêmes ?
Ah, les profs, non seulement ils sont nuls, mais en plus ils sont toujours en vacances, toujours en grève, toujours en train de se plaindre. L'éducation nationale, une planque pour un ramassis de gauchistes attardés depuis mai 68. Vous connaissez ces clichés débiles ressassés depuis des décennies au sujet du corps enseignant ? Bien, ces clichés, on va aujourd'hui les faire voler en éclats. Non, les profs d'aujourd'hui ne sont pas tous de gauche, loin de là. Il y a plein de profs qui se pensent de droite et qui votent à droite. PS, LR et surtout Macron. Nombre d'enseignants sont aussi complètement dépolitisés. Et puis, les profs, ça veut rien dire. Ce n'est pas une population homogène. Il y a les profs du primaire, du secondaire, d'université, il y a les fonctionnaires et leur sécurité de l'emploi. Mais on compte aussi beaucoup de précaires dans l'éducation nationale. Il y a ceux qui gagnent plutôt honorablement leur vie et ceux qui tirent le diable par la queue. On va voir au cours de cette émission que la réalité des profs d'aujourd'hui ne colle pas toujours à ce qu'on pourrait en imaginer. On en parle pendant une heure autour de cet article du Monde diplomatique, les enseignants entre combativité, apathie et sirène managériale. Article commenté par les copains profs d'histoire géo, Daniel.
Bonjour à tous.
André.
Bonjour amis auditeurs.
Philippe.
Bonjour.
Et Cédric.
Salut.
Mais avant de nous lancer, une idée musicale pour faire évoluer les programmes scolaires. Et si on enseignait le swing à l'école, ainsi que le préconise le zazou Fred Addison.
Quand tu es le dernier à l'école, on me dit qu'au lieu d'étudier, tu rigoles. Non papa, je suis sérieux, mais les doigts sont ternes. Allons, j'invente un peu, moi je suis moderne. Tu connais pas ça? Ben voilà. À l'heure de la récréation, on apprend le swing en cadence. Ça vaut toutes les récitations, la grammaire et l'histoire de France. On ne sait plus si Richelieu était fabricant de sandales, mais on sait ça vaut beaucoup mieux. Faire le swing à la communale, Philippe Auguste et Pythagore ont aimé le trafic de l'or. Jeanne Hachette et Richard Lenoir ont éclairé le marché noir. On s'en tamponne les amygdales dans les lycées, dans les pensions. C'est pareil qu'à la communale, on fait le swing, 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 le swing à la récréation. On t'a donné des leçons de musique, Toto, tu avais des dons magnifiques. Papa, je suis bien certain que tu vas comprendre. Les grands trucs à la Chopin sont durs à apprendre. Et puis ces messieurs sont vieux jeux. À l'heure de la récréation, on apprend le swing en cadence. Ça vaut toutes les méditations, les sonates, les contredanses. Les œuvres des grands musiciens, on les oublie, c'est un scandale. Mais par contre, on sait vraiment bien faire le swing à la communale.
Il faut surtout bien savoir l'orthographe. Toto, c'est là ton devoir, pas de gaffe.
Papa, je vais t'épater, j'écris aspirine avec un H aspiré comme dans cuisine. N'est-ce pas que c'est bien, mais ce n'est rien. À l'heure de la récréation, on apprend le swing en cadence. Ça vaut toutes les déclinaisons, les verbes et leurs conséquences. Faut pas oublier cependant tous les pluriels des mots en hal. On chante, on répète en dansant notre swing à la communale. Un haricale,
des haricots,
un godillal,
des godillots,
un ragout de val,
des ragouts,
un vieux chamal,
des vieux chameaux. Oh, 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 oh. À la récréation. Le swing à la récréation.
C'est une spéciale enseignement aujourd'hui, grâce à cet article du Monde Diplomatique, édition de mai 2021. J'ai choisi pour vous cet article et j'ai demandé à Cédric, qui lui est toujours au front, parce que vous n'enseignez plus Daniel et André depuis une petite dizaine d'années. Cédric, lui, est toujours en première ligne, coincé entre la hiérarchie, les parents et face aux élèves pour lesquels il fait ce qu'il peut. Et j'ai demandé donc à Cédric de plancher et de vous faire réagir sur cet article du Diplo. Une culture professionnelle menacée de toutes parts, les enseignants entre combativité, apathie et sirène managériale. Article signé d'Anne Jourdain et d'Alain Poplard, enseignante dans le secondaire et journaliste. Plus indiqué que la moyenne de la population active, plus enclin à faire grève, les enseignants donnent l'image d'un bastion compact et organisé. Mais cette apparente combativité dissimule la réalité d'une profession gagnée par la démobilisation, la dégradation des conditions de travail, les défaites à répétition et les pressions de la hiérarchie ont fini par laisser des traces. Alors Cédric, peut-être l'occasion, une bonne fois pour toutes, de dynamiter cette vieille image qui ne correspond pas du tout à la réalité, hein, selon quoi l'éducation nationale serait un repère de bolcheviques toujours en grève.
Eh oui, parce qu'ils sont nombreux à dénoncer le complot judéo-bolchevique qui menace la France, et bien sûr au cœur de ce complot, il y aurait les profs qui, comme tu l'as justement dit, sont souvent vilipendés pour être d'affreux trotskistes qui bourrent la tête de nos enfants et qui sont d'ailleurs toujours en grève et aussi toujours en vacances.
Et en plus, quand ils font grève, ils sont payés.
Ils sont payés, ouais, voire le double. Alors, un certain nombre de statistiques iraient dans ce sens. En 2015, les professeurs premier, deuxième degré représentaient 4% de la population active, mais représentaient 23% des journées de grève et 71% des grèves de la fonction publique. Donc ce qui accrédite cette idée d'une mobilisation permanente, d'une minorité de blocage vis-à-vis de toute réforme qui permettrait une amélioration du système scolaire. Eh bien, l'article justement démonte un petit peu tous ces stéréotypes. Il insiste sur le fait que la focale médiatique se concentre en fait sur trois minorités. La minorité combattante, il y a parmi les profs effectivement des combattants syndicaux, politiques, engagés. Il y a une deuxième minorité, celle qui est loyale vis-à-vis du ministre et qui s'échine à appliquer avec beaucoup de force toutes les consignes, notamment liées aux nouvelles technologies, aux méthodes managériales, et on verra quelques exemples. Enfin, la troisième minorité mise sous le feu des projecteurs, c'est les profs qui démissionnent, qui quittent le métier dégoûtés par l'expérience qu'ils ont pu vivre et au bout de 1, 2, 5, 10 ans, baissent pavillon et s'en vont. Ce sont trois minorités très visibles, mais ça reste des minorités. La majorité des profs, 80-90%, c'est une majorité apathique à l'image de la société, qui subit pour des préoccupations essentiellement alimentaires, et qui peut prendre plus ou moins de plaisir avec ses élèves, mais qui subit un système qu'il comprend de plus en plus mal. Cette majorité apathique, à quoi est-elle liée? D'abord, à un manque de formation politique de plus en plus forte, notamment chez les jeunes générations, mais ceci à l'image de la société, ni plus ni moins que le reste de la société. Il y a un désengagement politique qui fait que la capacité de réaction face à des réformes n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de pensée qui permet de structurer un combat et un engagement. Deuxième explication qui est liée à celle-ci, c'est le questionnement sur le degré de conscience de la mission de service public qui est la nôtre quand on s'engage dans cette carrière. Alors ça peut paraître des idéaux un peu dépassés, servir tous les publics, l'émancipation des élèves, la méritocratie, etc. Là aussi, c'est un discours qui soit a été oublié, soit qui a été banalisé par l'institution avec des mots tels que bienveillance, des mots très fourre-tout qui cachent la vérité d'un engagement. Enfin, le troisième élément sur lequel insiste l'article, qui explique cette apathie générale des profs, c'est la répression. Une répression extrêmement sévère contre les mouvements de désobéissance, plus que de grève, on va le voir, les mouvements de désobéissance, notamment qui se sont fait jour en 2019 avec la mise en place du nouveau baccalauréat. Il y a des lycées qui ont été très en pointe dans le combat pour notamment protester contre les nouvelles modalités du baccalauréat et notamment ces épreuves anticipées, disons plutôt prématurées. Des sanctions ont été prises contre un certain nombre d'enseignants qui ont été jusqu'à 8 mois de suspension. Et au-delà de ces sanctions administratives officielles, des mesures plus sournoises, comme des nominations sur 2 postes très distants l'un de l'autre par l'administration, vous voyez, pour compliquer la vie au quotidien de profs qui sont à cheval sur 2 voire 3 établissements et leur rendre la vie impossible. Il y a même eu des pratiques d'abaissement d'échelon qui ont été prises. Cette violente répression, en fait, elle a été portée au pinacle par le ministère. C'est-à-dire qu'ils l'ont mise en scène pour faire peur. Car très clairement, ça reste des phénomènes assez rares, et c'est plutôt des rodomontades médiatiques de Blanquer qui veut donner ainsi une image très dure. Attention, nous pouvons sanctionner très fort. Il y a très clairement là une volonté d'humiliation, d'écrasement, qui n'est pas une nouveauté. Monsieur Blanquer s'inscrit dans une tradition dans laquelle il y a des prédécesseurs de gauche et de droite, et notamment Monsieur Allègre.
C'était lui qui voulait dégraisser le mammouth.
Des formules choc. Voilà, on pend 3-4 personnes au gibet pour montrer que, attention, on peut le faire, etc. Mais derrière, en fait, on s'aperçoit que les sanctions restent rares. Cependant, ça fait naître une véritable peur qui fait qu'il y a un décalage vis-à-vis du ministère. Alors, les socialistes, par exemple, quand ils étaient au pouvoir, avaient tenté d'apaiser le dialogue. Quand on réprime, il faut être sûr de gagner. Bon, ils avaient, avec Allègre, il y avait eu un passif quand même, et qui voulait s'assurer quand même du vote. Ils avaient nommé Madame Vallaud-Belkacem, que l'on appelait dans les ministères Pimprenelle. Comme Pimprenelle et Nicolas, elle devait verser la poudre pour endormir les gens. D'accord ? Donc, effectivement, c'était quelqu'un de très rond, de très diplomatique. Voilà. Alors, de temps en temps, on nous nomme une Pimprenelle ou un Nicolas pour histoire de... pour faire rebaisser l'attention. Mais la majorité du temps, pof, on nomme des gros durs à la Blanquer, genre, ouais, on va vous défoncer la gueule. Et donc ça, effectivement, face à des gens qui n'ont pas un degré de conscientisation politique et de mobilisation et de capacité à se mobiliser, et voyant une masse apathique qui n'est pas prête à les soutenir, bah on plie boutique et puis on se dit, oula, bon, je vais éviter les emmerdes, on va le faire ce qu'ils nous demandent, et puis ensuite, ça passera bien. Est-ce que c'est complètement nouveau, cette histoire d'un corps professoral qui, tout compte fait, ne réagit que peu face aux nouveautés et aux brutalités du pouvoir? Eh bien non, c'est historiquement ancré. Parce que déjà, historiquement, la première participation de la profession en tant que profession dans un phénomène de grève, ce sont les grèves de 1936. Donc ça fait même très tardif. Il n'y a pas une culture du combat comme il y a pu avoir dans des classes populaires et dans le monde ouvrier. Le pouvoir a longtemps tenté d'amadouer un groupe qui, socialement et qui, par sa formation, est relativement proche des élites. C'était, dans ces années-là, des gens issus plutôt de classes moyennes et de classes supérieures, qui connaissaient une formation dans laquelle on demandait d'obéir à l'État, d'appliquer les consignes de l'État, et qui avaient intégré assez largement cela, et qui fait que, souvent, le réflexe du bon élève, c'est quand même de faire ce que lui demande le prof, quoi. Quand ils sont profs, ils gardent le réflexe du bon élève en disant « Oh ben, je fais ce qu'on me dit, et puis je sais pas trop où ça va aller, mais bon, si on me dit de le faire, c'est que ça doit être bien, quoi. » Il y a cet élément-là psychologique qui reste encore ancré de façon très importante. Ensuite, il y a l'isolement des enseignants. Déjà, la tâche d'enseignement nous isole les uns par rapport aux autres, notamment dans le second degré, où on a nos emplois du temps qui font que souvent on se croise plus qu'on ne se voit. C'est moins vrai au premier degré, où voilà, il y a l'école forme une sorte de bloc, d'unité, dans lequel il y a des amitiés, des confrontations, etc. Mais ça forme un bloc dans lequel il peut y avoir une mobilisation. C'est beaucoup plus dur en collège et en lycée, où on se croise.
Et a fortiori, quand t'as des enseignants qui sont à cheval sur deux, voire même trois bahuts, qui ont à peine le temps de manger un sandwich dans leur voiture entre deux cours, qui n'ont même pas le temps de dire deux mots à un élève dans un couloir, tu penses bien que la cohésion avec les autres profs, c'est compliqué.
Cette cohésion, elle est aussi mise à mal par des faits sociologiques, par exemple. C'est une profession très féminisée. 71% des enseignants sont des femmes, à un âge moyen, 43 ans. Ce sont aussi des personnes qui sont accablées par les tâches familiales et aussi les tâches ménagères, qui fait que les préoccupations ne sont pas que des préoccupations professionnelles, elles se doublent de préoccupations quotidiennes, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est les femmes qui assurent encore la majorité des tâches, même quand elles travaillent. S'engager dans des mouvements sociaux, politiques, etc., est toujours plus difficile quand vous avez aussi à gérer la maison, les enfants. Et là, c'est un élément qui joue aussi. Un autre élément qui fait que les profs sont isolés et divisés, c'est qu'il n'y a pas d'unité économique chez les profs. Il y a d'énormes différences de salaire selon d'abord le point de carrière, si on est jeune ou si on est vieux. On n'a pas le même statut.
Un jeune prof, un capétien, ça démarre à 1006.
Voilà, c'est un gros SMIC. Ils avaient été emmerdés il y a 4 ou 5 ans parce que avec l'élévation du SMIC, les profs néo-titulaires au début étaient en dessous le SMIC. Donc ils étaient un petit peu emmerdés parce que c'était juste illégal. C'était, je ne sais plus qui, avait remonté à 2000 bruts vers 1600 net. Parce que, évidemment, embaucher des profs au SMIC, ça faisait un peu désordre, quoi. Avec B+5. Donc déjà, il y a des différences liées à l'âge qui fait que, on n'a pas les mêmes salaires. Il y a des différences de statut. 8,7% des effectifs de l'éducation nationale enseignants sont des précaires. Des contractuels précaires, payés plus qu'au lance-pierre. Quand vous êtes face avec des gens qui sont agrégés, très clairement, on n'a pas les mêmes salaires. Donc, on peut avoir des préoccupations qui ne sont pas les mêmes.
T'as deux concours d'enseignement pour le secondaire, t'as le CAPES et l'agrégation. Quand tu l'as, tu bosses moins et t'es payé plus.
Voilà.
Et ça fait que des fois, dans certains bahuts où il n'y a pas vraiment de grosse cohésion entre les profs, à la cantine, les CAPESiens mangent avec les CAPESiens et les agrégés avec les agrégés. Moi, je l'ai vu dans un bahut où j'étais pion.
Au lycée Descartes, c'était il y a 30 ans, c'était pas le Moyen-Âge, il y avait une salle des profs agrégés, une salle des profs certifiés, une salle de profs stagiaires. Tout ça, ça a sauté quand même. Mais aujourd'hui, c'est que moi, au bout de 25 ans de carrière agrégée, je gagne le double d'un certifié qui commence sa carrière. Il peut y avoir, si vous n'avez pas une conscience politique, en disant, je gagne honnêtement ma vie, je ne vais pas me plaindre de mon salaire. Le petit gars, il a qu'à bosser, et puis moi aussi j'ai commencé comme ça. Et voilà, ça peut développer des sentiments individualistes, voire de tensions internes, parce que le stagiaire, il peut me dire, moi je bosse autant que toi, tu gagnes le double de moi, c'est dégueulasse, quoi. Si bien que ces divisions-là gangrènent, il n'y a pas d'unité de groupe, ça nuit à une action collective. Ces différences de salaire, d'ailleurs, se retrouvent en termes politiques. Alors, je ne vais pas vous assommer sous des tonnes de chiffres, mais ça se traduit politiquement. Si l'on regarde le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, comment ont voté les profs ? Jean-Luc Mélenchon avait fait 23% contre 19,5% au national. Donc on voit une surreprésentation pour M. Mélenchon. M. Hamon, qui avait retenu 6,3% des électeurs au premier tour, a fait 15% chez les profs. Mais le premier candidat pour lequel ont voté les profs, au premier tour, 38% des profs ont voté Emmanuel Macron contre 24% à l'échelle nationale. C'est-à-dire que les profs ne sont pas des trotsko-bolcheviks enragés. 38% des profs ont voté Macron. Mais si on regarde dans le détail, pour les contractuels, c'est seulement 24%, c'est-à-dire dans la moyenne nationale. Pour les profs du premier degré, en école, c'est 33%. Les certifiés, 45%. Et les agrégés, 50%. 50% des agrégés ont voté Emmanuel Macron au premier tour.
C'est une classe moyenne, prudente, qui suit l'air du temps.
Qui se maintient à l'écart des extrêmes.
Qui se rejoignent, comme chacun sait.
Et donc, le dernier point, il y a chez les profs une inflation des tâches administratives, la pression des examens qui s'étale tout au long de la première année terminale, qui font que avec quand même un fond de conscience professionnelle, on se dit je vais pas faire grève, je vais pas m'engager trop violemment parce que si on fait grève, on perd les heures de cours, nanani nanana. En fait, il y a une pression qui est de plus en plus grande en disant que nous sommes responsables de la réussite ou de l'échec de nos élèves, que c'est l'école. L'école incarnée dans les professeurs qui sont responsables de l'échec ou de la réussite directe des élèves. Et donc, si on fait grève, si on se mobilise, si on fait des pas de côté, si le programme, vous voyez, on dit, mais ce programme, il est nul à chier, quoi. Bon, on va faire des trucs un peu plus rigolos, un peu plus, on va s'étendre sur la commune. Ou... Ah, oh, mon Dieu, mais merde, j'ai passé 2 heures sur la commune, j'ai passé 1 heure de trop, je vais pas pouvoir faire les flux de la mondialisation, et mes élèves, ils vont être, ou bien, on n'a pas fait Madame Roland, oh mon Dieu, il va y avoir un texte sur Madame Roland qui va tomber, oh là là, mon Dieu, voilà. Et donc, on va faire une demi-heure sur Madame Roland et une demi-heure sur la commune, voilà, parce qu'on va faire les deux. Parce qu'on nous met la pression qui fait que les profs sont apathiques parce qu'il y a aussi une espèce de rouleau compresseur des réformes qui font que, quelle que soit la tête d'affiche, que ce soit Blanquer ou un autre, on a l'impression que de toute façon c'est comme ça, de toute façon il y aura des examens étalés tout le temps, contrôle continu, blablabli, blablabla. De toute façon, bah, c'est comme ça, quoi. Donc c'est pas en faisant ta petite grève ponctuelle, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que la tradition de protestation chez les profs, c'est la grève ponctuelle, la grève de 24 heures. Pof, on proteste, on n'est pas content. Le témoignage, alors voilà, on affiche 40, 50, 60% de grévistes, on bombe le torse. Ouais, attention, hein, on peut le faire. Et puis le lendemain, tout le monde rentre au boulot avec sa petite, son petit attaché-caisse et puis on repart. Les formes de protestation, la culture politique de la protestation n'est pas capable de répondre face à un véritable rouleau compresseur. Gauche ou droite, hein, la technocratie à l'avance de la rue de Grenelle, elle avance ses billes. Et donc, il y a beaucoup de profs qui disent, bah, à quoi ça sert que je perde une journée de salaire? Oh, bah, merde, j'ai que 2 heures de cours, je vais pas perdre 80 balles. Eh ben, je fais mes 2 heures de cours, quitte à aller à la manif après ou avant, voilà. Et puis, à contrario, t'as le prof qui a ses 7 ou 8 heures de cours, bah, c'est sa grosse journée. Ah, bah, non, je peux pas, parce que là, 7 heures de cours, franchement, les élèves, ils vont être pénalisés pour le bac, quoi. Et donc, je vais faire mes heures de cours. Il y a une ambiguïté qui fait que, face à une vraie volonté ministérielle, il y a la capacité de réaction qui est quasi nulle pour des faits à la fois historiques, sociologiques et une culture qui fait qu'on est loin d'un nid de trotsko-bolchévique.
On va parler de l'entreprise à l'école, j'espère.
L'entreprise à l'école, parce que le discours ministériel, qui est quand même bien ancré depuis des décennies maintenant, c'est d'arrimer l'école au marché et à l'entreprise. Pour cela, ça passe par des méthodes de management pour le personnel, notamment qui s'est incarné depuis quelques années à travers les rendez-vous de carrière. Donc ce rendez-vous de carrière a lieu avec son proviseur et son inspecteur, où le professeur est invité à constituer un dossier. Il doit produire un CV valorisant, je cite, « les projets, compétences et expériences éducatives » au-delà d'une qualité professionnelle lors d'un cours que l'on donne. Donc c'est l'arbitraire le plus total, qui pourtant, d'un point de vue de la carrière, est important parce que c'est le seul espoir d'atteindre le hors-classe ou Graal suprême, la classe exceptionnelle qui permet de substantiellement augmenter votre salaire. Ça aiguise des appétits, d'autant plus que le point d'indice chez les fonctionnaires, c'est ce qui détermine le salaire de tout le monde. Ce point d'indice est maintenant gelé depuis 8 ans, mis à part un petit coup de pouce qui avait été donné par François Hollande. Mais sinon, ça fait 8 ans que les salaires n'ont pas bougé. C'est-à-dire que, mis à part la progression des échelles, votre salaire stagne alors que l'inflation, elle, augmente. Donc on voit effectivement une moyennisation des salaires de professeurs qui fait que d'une classe moyenne plutôt élevée, globalement, on a un abaissement du niveau de vie, notamment avec l'augmentation des coûts d'immobilier et ce genre de choses, avec des profs qui ont du mal à se loger, notamment en région parisienne, ce qui est quand même le lot commun des profs en début de carrière, où ils se retrouvent expulsés dans des banlieues extrêmement lointaines. Donc on a une prolétarisation très perceptible par les profs qui aiguise un comportement de type clientéliste, où on va essayer plus ou moins de faire consciemment ou inconsciemment la danse du ventre devant ses responsables, en mettant en place des projets dynamiques, susciter l'intérêt d'un grand ponte qui va vous donner comme ça, vous voyez, hop. L'article cite une expérience pédagogique et je ne risque pas au plaisir de vous lire ce qui s'est passé dans un lycée là. Donc la liste qu'il a emportée aux élections professionnelles est la liste qui s'appelle « Construire ». aucune étiquette classique des syndicats. Donc l'étiquette construire a recueilli la majorité des voix des élections des représentants du personnel. Revendiquant leur apolitisme et leur pragmatisme, les listes de ce type déconnectent souvent les conditions de travail des choix politiques dont elles découlent. C'est ainsi que construire, lancé il y a quelques mois, un audit interne pour redynamiser l'établissement en perte de vitesse grâce à une meilleure gestion des ressources humaines. Un document collaboratif ouvert au personnel, à la direction, aux parents d'élèves, permettait d'évaluer anonymement la performance et la bienveillance des membres de la communauté éducative. On disait qu'enseigner, c'est aussi faire du management afin de fixer des objectifs et de réfléchir à la meilleure trajectoire pour amener les élèves à les atteindre. Comment peut-on faire pour aider les élèves? Alors qu'au moment même, bourgeonne dans l'établissement cours de yoga, séances de sophrologie, escape game et séminaires de communication non violente, autant de projets d'événements ludiques censés remédier à l'échec scolaire ou à la souffrance au travail. Donc les profs, ils vont s'engager dans des cours de yoga. Ah, mon Dieu, petit élève, tu vas être prêt pour les examens, etc. Et donc là, on est dans des discours débilisants de management à la con, technique américaine. Mais comme quand même, on n'est pas très doué en interne pour faire ça, on a de plus en plus recours à des entreprises extérieures. Ces entreprises extérieures proposent, je cite, à leurs jeunes cadres de vivre une expérience humaine rare et riche en dispensant des séances de coaching dans des collèges publics. Alors, titre des séances de coaching, prépare tes affaires de classe, couche-toi de bonne heure, mets ton cerveau sur on. Parmi ces entreprises, on retrouve L'Oréal, la Fondation Total, AXA, mais celle qui est la plus en pointe, et la fondation Bettencourt-Schuller.
c'est philanthrope.
Qui doivent oublier de leur parler du comportement de leurs anciens patrons pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ils mettent leur cerveau sur on, d'accord? Donc on a des jeunes cadres dynamiques qui arrivent et qui vont donner des cours comme ça. C'est sympa, hein? C'est pas nouveau, hein, cette histoire de management dans l'entreprise, de transférer en fait des choses qui marchent très moyennement ou pas, ou dans le secteur privé, et de le transférer dans le secteur public. Alors notamment, il y a aussi la technophilie, hein, très en vogue au ministère. Alors je crois que la période de confinement là quand même a brisé tous les rêves qui étaient les leurs en disant on met un prof, il donne de la visioconférence à 700 000 élèves parce que c'est le meilleur prof, il est super bon, il est très pédagogue, etc. Il fait cours pour tout le monde, les gamins sont derrière des écrans, prennent des notes et puis ils vont être super intelligents plutôt qu'avec des profs à la con, tu vois. Je crois que là ça bon, tous les problèmes sociaux, psychologiques qu'on a eu, je connais pas un élève qui dit ouais, tiens, c'était super bien le confinement, les cours à visio, c'était génial. Non. Cependant, est-ce que ça a brisé tous ces vieux rêves? Non, Monsieur Blanquer vient de lancer un appel à projet aux startups pour créer des robots conversationnels qui pourraient être ainsi des outils souples, dynamiques et agiles afin d'entretenir un rapport direct avec l'élève et d'individualiser l'enseignement. D'accord? La puissance des algorithmes nous permettra d'éviter le problème du décrochage. Et il termine, c'est mon côté progressiste. C'est d'autant plus pathétique qu'en parallèle, les crédits affectés aux dispositifs tels que devoirs faits au collège et en lycée, on finance des profs, ils viennent accompagner les élèves pour faire leurs devoirs au collège et lycée, ces crédits-là sont en pleine chute libre. Donc d'un côté, un dispositif qui fonctionne plutôt bien, direct, d'ailleurs c'est généralement pas le prof de l'élève qui vient lui apporter un autre éclairage, c'est une sorte de cours particulier où on n'apprend pas quelque chose en plus mais on fait les exercices avec le gamin, ça marche très bien et ça c'est en chute libre pour ainsi financer des start-up qui effectivement vont mettre en place des robots conversationnels quoi. Donc là on a une espèce de technophilie conjuguée à du management à l'américaine à la con et c'est ça la ligne de conduite du ministère.
C'est quand même mieux que la pédophilie quand même.
L'un n'exclut pas l'autre.
Là, on voit bien qu'il y a un malaise, l'apathie des profs. C'est un malaise qui se traduit par un chiffre très concret. C'est la crise des recrutements. L'ami de mon fils passe l'oral du CAPES. Ils étaient 1600 candidats inscrits. 1300 se sont présentés aux épreuves écrites pour 800 postes à la fin. À l'issue des épreuves écrites, elle a dit il y a des gens qui sont admissibles, mais qui savent à peine lire et écrire. Personne ne veut faire ce boulot. Alors, même si on a 28 semaines de vacances, qu'on est grassement payé, qu'on est toujours en grève, c'est bizarre quand même que personne ne veuille faire ce boulot. D'aller pourrir dans une fin fond d'une banlieue pourrie pour 1600 balles par mois, c'est étrange. Donc il y a un vrai problème, quoi.
Il y a un truc qui m'est apparu il n'y a pas longtemps, Cédric, avec notamment lors du mouvement des Gilets jaunes, où j'ai vu apparaître des enseignants. Et effectivement, il y a eu un temps, quand j'étais gamin, prof, t'avais entre guillemets, soi-disant, je mets beaucoup de guillemets, la sécurité de l'emploi et du congé, mais enfin qui t'aide à vaguement te retaper, parce que c'est violent comme boulot quand même. Puis je me suis rendu compte d'un truc lors des Gilets jaunes, c'est que effectivement, si c'était une profession où on gagnait plutôt bien... Il y a encore 20 ans, baisse de pouvoir d'achat, point d'indice gelé, machin, etc. J'ai vu un pote, moi, qui a eu le bonheur de passer son CAPES. Il est divorcé, il a deux gamines, 20 ans de boîte. Il est à cheval sur deux ou trois bahuts. Il bouffe des sandwichs dans sa bagnole entre midi et deux, entre deux collèges. Il me dit, une fois que j'ai payé le loyer, les trucs pour les gamines, etc. Et je me suis payé mes clopes, j'ai plus rien. Bah, aujourd'hui, les profs, il y en a, c'est quasiment des gilets jaunes de l'éducation nationale. Après, une petite note d'optimisme, là, tu nous as parlé de l'école, mais de l'école publique. Alors, rassurons les auditeurs et les auditrices, les enfants de la bourgeoisie, eux, ils ont droit à des vraies écoles avec des vrais profs, et ils sont pareils, eux, pour les concours.
Oui, avec par exemple des lycées à Paris qui n'avaient pas appliqué la réforme enlevant le latin et le grec. Ou bien des lycées, aujourd'hui, notamment des lycées privés, qui dans leur communication pour Parcoursup ou leur communication vis-à-vis de leurs nouveaux potentiels élèves de seconde, affichent qu'ils ont été 100% en présentiel pendant toute l'année. En contradiction avec toutes les lois et ordonnances du gouvernement, qui disaient qu'on pouvait avoir que des jauges de 50% et qu'il fallait alterner les classes. Et là, on voit des lycées privés, « Ah bah oui, on a été ouvert toute l'année en 100%, etc. » Pas de sanctions, rien. Hallucinant, quoi.
Est-ce que tu reconnais l'école au travers de cet article du Monde diplomatique, Cédric ?
L'apathie, c'est quand même ce qui domine. On subit, quoi. On subit le truc. Alors, chacun dans notre coin, on prend nos petites marges de liberté, on s'offre une dimension critique, on essaye pour se... J'ai les idées de porter un ou deux projets porteurs de sens.
Petite balade à Auschwitz avec les élèves.
Voilà, un truc un peu sympa.
Parce que t'as fait beaucoup ça.
Mais tout compte fait, c'est pas très enthousiasmant, quoi. Moi, j'ai la chance d'être dans un lycée de centre-ville avec des gamins qui, pour la large majorité, ont intégré les normes de cordialité et de civilité qui font que c'est pas pénible d'aller en cours. Et avec une grosse minorité qui ont un sens critique encore, où on peut échanger, et donc ça fait le sel et le bonheur, mais la dimension institutionnelle, les réunions à la con, les nouvelles formes d'examen, tout le cadre déconne, quoi. Et je comprends qu'il y a des collègues qui se trouvent dans des situations plus compliquées, vis-à-vis de leurs élèves, vis-à-vis de leur salaire, etc., qui soient dans des positions de détresse morale et psychologique majeure.
André, en lisant cet article, est-ce que tu reconnais aussi l'école dans ce papier du Monde diplomatique ?
Oui, j'ai arrêté de travailler, je suis rentré en retraite il y a une dizaine d'années. Ce que décrit l'article, c'est tout à fait ce que j'ai connu, et tout ce qui se passe aujourd'hui était déjà engagé il y a au moins une trentaine d'années. Tout d'abord, qui sont les enseignants ? Alors, l'article s'intéresse essentiellement aux professeurs. Mais il faudrait quand même faire une petite page d'histoire pour dire que jusqu'aux années 60, les instituteurs sont très majoritaires en France. Parce que moins de 10% des gens sont scolarisés au lycée. Donc la plupart des enseignants, c'est des instituteurs. Faisons un petit peu d'histoire, si vous voulez, dans les années 20, 30 et jusqu'aux années 60... D'abord, ils sont d'origine beaucoup plus modeste quand même que les professeurs, compte tenu de la société, de l'époque. Certes, il y a aussi des petits, des micro-bourgeois, mais enfin, il y a beaucoup d'instituteurs qui sont enfants de familles populaires, familles ouvrières, de familles paysannes, etc. Et ils sont confrontés, pendant ces années-là, tu as parlé tout à l'heure du Front populaire, à de vastes mouvements sociaux, ouvriers. Les enseignants sont syndiqués à la CGT. Alors la CGT, elle, bien sûr, est divisée jusqu'en 1935 entre une CGT socialiste et ses filles et une CGT communiste. Mais en 1935, il y a réunification, et donc les enseignants, les instituteurs en premier lieu, sont syndiqués à la CGT. C'est après la guerre, en 1948, que se fait à nouveau la scission. En 1948, naît FO et la FEN, ce sont des syndicats anticommunistes, très clairement, hein, il s'agit d'une manœuvre menée par la SFIO, les socialistes, pour détacher ces syndiqués de la CGT qui, elle, est influencée par le Parti communiste et les militants communistes. Et alors, il se crée la très puissante Fédération de l'Éducation nationale. À l'époque, les enseignants sont beaucoup plus syndiqués qu'aujourd'hui, hein. Et cette FEN, Fédération de l'Éducation nationale, est dominée par le Syndicat national des instituteurs, très influencé par le Parti socialiste, essentiellement la SFIO, hein, bien sûr. Un syndicat modéré, un syndicat de gestion, de co-gestion de l'éducation nationale avec l'inspection d'académie, etc. Timide dans les revendications et pas du tout sur la même ligne que la CGT. C'est une histoire, ça. Il se développe dans la Fédération de l'éducation nationale une tendance, Unité Action, un peu plus proche de la CGT que la tendance majoritaire. Jusqu'à la fin des années 70-80, la tendance majoritaire est très modérée et collaboratrice avec le pouvoir, tous les pouvoirs d'ailleurs. Bon, ça c'est pour l'encadrement en quelque sorte idéologique. Maintenant, globalement, les enseignants, ils sont issus des classes moyennes, petites micro-bourgeoisies en quelque sorte. Je dirais, ils ont une idéologie qui est celle de leur classe sociale aussi. Bien sûr, les luttes et la proximité du mouvement ouvrier peut éventuellement influencés, mais globalement et majoritairement, ils ont une mentalité. Jusque fort tard, ils sont influencés par le Parti socialiste et ou le radicalisme. Et lorsqu'ils ont une conscience politique, et ils avaient une conscience politique jusqu'aux années 60, 70, etc. Les enseignants vont être confrontés à la terrible décennie des années 1980. Ça va faire un mal considérable, hein. C'est en 1981, très précisément, que le salaire des enseignants décroche. La diminution de la rémunération des enseignants, ça commence en 1981. C'est continu. Il y a progressivement une prolétarisation de la grande masse des enseignants. C'est tout à fait clair. Quant maintenant à la grande catastrophe, j'appelle ça comme ça, des années 80, la terrible décennie, c'est la décennie de l'ambiguïté, de l'équivoque, de la trahison, de la gauche qui se défait en quelque sorte. Au moment où la gauche prend le pouvoir en 1981, c'est le début de sa décomposition. Bien sûr, de la perte de vitesse des communistes, qui étaient fort actifs dans le milieu enseignant. J'étais dans un SNES, un syndicat national de l'enseignement secondaire, très marqué par la combativité des communistes et des cégétistes, etc. Mais aussi dégradation du Parti Socialiste lui-même, et surtout compromission du Parti Socialiste, si vous voulez. Hein. Alors, si vous voulez, beaucoup d'enseignants vont rester de gauche, mais influencés par un Parti Socialiste qui n'est plus de gauche. C'est-à-dire que le libéralisme, les idées libérales, commencent à entamer les enseignants eux-mêmes. C'est pas étonnant qu'ils votent Macron à 38%. Pourquoi ? Pourquoi voter à gauche ? Puisque Macron a les mêmes idées que le Parti Socialiste. Il ne faut pas s'en étonner. Et ça va évidemment avec aussi une baisse de la combativité, un effondrement de la combativité. On était malheureux, nous, hein, les syndicalistes enseignants dans ces années-là. On était un peu isolés. Bon, on pouvait prévoir ce qui allait se passer. Alors bien sûr, il y a quelques différences. Hein, si je prends la situation il y a 20-30 ans, à l'époque, c'était pas le managérial qui l'emportait, c'était le pédagogique. Mais ça avait la même fonction. Il s'agissait en fait de détourner les enseignants d'une réflexion sociale, d'une réflexion syndicale, politique. Il fallait être pédagogue. Et effectivement, déjà à l'époque, il y avait des petits malins qui se mettaient dans le pédagogique pour se pousser dans la profession, pour devenir chef d'établissement, etc. Tout était pédagogique. Et le triomphe, c'est Ségolène Royal, quoi.
On parle dans cette émission très régulièrement de la casse et du non-enseignement de l'histoire. Bah, parmi toutes les victimes du non-enseignement de l'histoire, il y a aussi des gens qui sont profs aujourd'hui. Faut pas non plus s'étonner de l'apathie et du manque de connaissances politiques, puisque ces gens connaissent pas leur histoire populaire.
Bien sûr, et d'ailleurs j'ajouterai une chose, l'ignorance généralisée, massive de leur histoire ne permet pas aux gens de savoir où ils sont, qui ils sont. Ils sont aliénés, les enseignants, qui devraient être une profession d'émancipation, de libération des esprits. Ces gens sont eux-mêmes aliénés. Ils savent pas très bien où ils sont. Comment voulez-vous qu'ils apprennent à leurs élèves où ils sont eux-mêmes ?
Comme j'entends certains apprentis capétiens en histoire-géographie qui se vantaient l'autre fois à la terrasse d'un café de ne jamais ouvrir un livre, hein, parce que les livres, c'est fait pour les vieux ringards, et qui préparaient leur capès à coups de Wikipédia. Et ça se retrouve devant des élèves après.
Il est de plus en plus dur de trouver dans les programmes et avec la pression des examens des interstices de liberté qui permettent de faire de l'histoire, qui posent question par rapport aux politiques, par rapport à la société, et pas annoncer des dates, des événements, des faits, mais avoir un vrai degré de réflexion. Il faut du temps pour poser un questionnement, poser des interrogations, pour laisser le temps aux élèves de s'approprier les choses et de se poser des questions. Pas les endoctriner en devenant tous des bolcheviques, mais de se poser des questions. En quoi ça, ce qui s'est passé il y a 10, 100 ans, 1000 ans, ça a une résonance encore aujourd'hui? En quoi ça parle de nos problèmes? En quoi ça parle de notre culture, de notre vision des choses? Quand on prend le temps de le faire, 90% des élèves sont intéressés, au lieu de 50% qui suivent bien gentiment ce qu'on leur dit, etc. On voit que les gamins, mais ils sont friands de ça, ils en veulent. Sauf que quand on vous déboule des E3C à faire en janvier, en mars, un machin, et puis qu'il faut faire X chapitres, expédient en 2 heures, etc., on a le temps de rien faire. Et ensuite, faut pas s'étonner qu'il y a une déconscientisation politique, sociétale, et qu'ensuite, les jeunes, quelle est la première candidate chez les jeunes entre 18 et 25 ans à l'élection présidentielle dans tous les sondages? Eh ben, c'est la grosse Le Pen. Et il faudra pas pleurer, parce que on l'a bien cherché. Et ça, on va se le prendre en pleine face, et ça sera de leur faute. Ils auront des comptes à rendre, tous ceux qui nous ont imposé ces putains de réformes.
Tout à fait d'accord avec Cédric, et je suis comme lui en colère, parce qu'effectivement, ça a été fait sciemment. On va me dire que je suis complotiste, etc. Non, ça a été fait sciemment, délibérément, il s'agit d'écerveler les gens. C'est facile, on ne parle pas de ça, on évacue cela, on étouffe ceci, on diminue ça, les programmes. On ne permet pas aux enseignants d'histoire, en l'occurrence, puisque nous sommes historiens, de faire un véritable travail de professeur d'histoire. C'est un résultat désastreux, catastrophique.
C'est-à-dire que longtemps, le taux de syndicalisation a été plus élevé dans la fonction professorale que dans les autres, non pas par une mobilisation intellectuelle ou syndicale, véritable, mais parce qu'évidemment, c'était la co-gestion. On se syndique pour être renseigné sur les mutations, les progressions de carrière, et ce genre de choses. Donc c'est un syndicalisme un petit peu intéressé. Mais au détour d'une réunion, on pouvait peut-être avoir d'un coup un intérêt pour une cause collective, etc. Sauf que maintenant, avec les dernières réformes qu'ont mises en place Emmanuel Macron et Blanquer, attention, c'est terminé. Hein. Les commissions paritaires et ce genre de choses qui fixaient les carrières et compagnie, c'est supprimé. Maintenant, ça se décide dans un coin de bureau entre les inspecteurs, les proviseurs et l'administration du rectorat. C'est totalement opaque, c'est l'arbitraire le plus total. Il n'y a plus ce rôle de co-gestion que pouvaient avoir les syndicats. Et là, alors, c'est à peu près certain que les taux de syndicalisation vont s'écrouler dans les 10 ans qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient dans les syndicats de façon un petit peu intéressée.
Bon, je pense qu'on peut faire quelque chose quand même, on peut reprendre. Ça va être long. Et faire réellement une réforme, pas du tout dans le sens de la réforme actuelle, ça va demander des moyens. Or, actuellement, il n'y a pas de moyens. Il s'agit de faire la même chose avec les mêmes moyens, et même si possible avec des moyens inférieurs. Or, il faut des moyens, de l'argent, former des personnels. Ça ne va pas se faire en un tournement, parce qu'il faut reformer des personnels de qualité, etc. Mais ça va être dur. Il va falloir refaire de l'alphabétisation, un petit peu comme à Cuba dans les années 60, c'est-à-dire envoyer des équipes, des commandos d'enseignants dans les campagnes. C'est une image, hein, bien sûr. Pour refaire de l'alphabétisation, c'est-à-dire reprendre les choses essentielles. Le seul vrai enseignement de base, c'est le français et la logique. Ces enseignements sont à reprendre avec une grande rigueur dès la maternelle. Il faut se fixer des objectifs. C'est une véritable campagne nationale qu'il faudrait, et non pas des petites réformettes. Voilà.
Tout ça va évidemment pas dans le sens du pouvoir, parce qu'évidemment, plus les gens sont abrutis et plus ils sont faciles à dominer. Je le disais en guise de plaisanterie tout à l'heure, mais j'ai grenouillé en tant que prof d'anglais dans un bahut privé à Tours. J'ai trouvé ça absolument édifiant. Parce que la fille du notaire, le fils du colonel de la base aérienne d'à côté, le machin, eux, ils viennent en cours pour conforter leurs connaissances. Hein. Et puis pour socialiser avec d'autres élèves. Et puis parce que de toute façon, c'est obligatoire. Il y a même un élève un jour qui m'a expliqué une règle d'anglais que je connaissais pas en grammaire. Donc je l'ai remercié. Et j'ai bien vu, hein, dans ce bahut privé, t'as les secondes générales, qui sont des trucs dépotoirs où les gamins savent même pas commencer leur phrase par une majuscule et la terminer par un point. Et de toute façon, tout le monde s'en fout.
Et puis t'as les sections d'élite. Alors avant, fallait faire maths et allemand.
Et grec, oui, voilà. Maintenant, ça s'appelle, je crois, section européenne. Et là, on a des gamins ils savent mettre des majuscules au début de leur phrase hein, et les terminer par des points. Et tu nous as déjà expliqué, Cédric, André a esquissé aussi la casse du collège, hein, le fameux collège unique imposé par les socialos, qui était une mystification. Oh, maintenant, tout le monde va avoir le bac. Effectivement, aujourd'hui, on a, faut vraiment être nul pour rater son bac. Hein, faut le vouloir, hein, parce que c'est des bacs pochettes surprise. La sélection, elle se fait plus au bac. Elle se fait, est-ce que papa, maman, ils ont les moyens de te payer une école qui va déboucher sur un boulot ou pas? Parce que l'université, elle est aussi devenue un dépotoir. Moi, j'ai un pote qui est prof d'anglais. Il a maintenant des étudiants qui savent pas commencer une phrase par une majuscule. Quand Word leur souligne un truc qu'ils ont tapé en rouge, eh ben, ils savent pas ce que c'est qu'un correcteur orthographique et ils sont étudiants. Ils sont à l'université. C'est-à-dire une espèce d'antichambre qui sert à, en fait, à faire ponctuellement baisser les chiffres du chômage, quoi. Mais rassurez-vous, si vous avez du pognon, vous pourrez acheter une bonne éducation à vos gamins.
Il y a un caractère totalement démagogique qui est commun à toutes les réformes. Il y a un abaissement des exigences de la part de l'institution qui en demande de moins en moins. Un abaissement des exigences pour faire un espèce de paix sociale en disant « Ah, vos gamins vont avoir le bac et compagnie, ils vont traîner, ils vont grenouiller dans les études, pendant ce temps-là, ils sont pas au chômage. » Sauf que ces gamins, pour beaucoup qui vont y arriver ric et rac, voient que plus ça va, moins on leur en demande. Et donc, eux, ils rentrent dans la logique démagogique en disant « Bah, moi, j'en fais !» Alors là, c'est les typiques du gamin qui font « Ouais, mais j'ai pas bossé, mais si... » Comme on nous demande de mettre 11 de moyenne, mais en faisant pas grand-chose, en n'étant pas totalement con, bah, le gamin, il a 8, 9, puis il passe dans la classe supérieure parce qu'il est gentil, elle est gentille, elle a des belles couettes, il est gentil, il est sympa, il dit bonjour en rentrant, il vous a pas tapé dessus, donc il va passer en classe supérieure, quoi. Sauf qu'à la fin, ils ne savent rien faire. Ils savent pas servir de leurs mains, ils savent pas servir de leur tête. Alors on recule l'arrivée sur le mur, mais à un moment donné il y a le mur hein, qui fait que eh bien on manque de compétences techniques, on manque de compétences intellectuelles, on arrive même maintenant au fait que au concours de recrutement de profs sur les 800 il y en aura 500 des personnes très compétentes etc. Mais la queue de peloton il y aura pas que des flèches hein. Et c'est à ça qu'on va confier nos mômes.
Sauf si t'as les moyens de leur payer une école de qualité. C'est finalement la même logique à l'œuvre qu'avec tout, qu'avec la retraite, prends une mutuelle, l'hôpital, va en clinique privée, machin. Tu veux une école digne de ce nom? Paye.
Il était si con, le premier de la classe, que tout le monde voulait être le dernier. Ça fait qu'il y avait un premier de classe et tout de suite après 43 derniers. Chacun déployait son intelligence pour être noté au-dessous de zéro, pour ne pas choper le prix d'excellence qui récompenserait ce triste charlot. Il était si con, le premier de la classe, c'était pas de sa faute s'il était le premier. Toutes les conneries enseignées en classe, il les avalait comme une tasse de thé. Avant que le maître ne nous questionne, il levait la main en disant « Monsieur, monsieur ». Et toutes les fois la réponse était bonne. Je me disais « Ce mec-là, c'est peut-être Dieu ». Il était si con, le premier de la classe, qu'effectivement c'était peut-être Dieu. Raison de plus pour ne pas suivre la trace du jeune phénomène adoré des yeux. Il nous faisait peur avec sa mémoire, qui dans les écoles passe pour du talent. La tête engorgée par les dates d'histoire, je l'ai revu plus tard au jeu des mille francs. Il était si con, le premier de la classe, qu'on faisait tous preuve d'imagination. Pour le distancer, pour qu'il nous dépasse, on a déployé des tonnes d'inventions. Henri IV est mort au cours d'une partouze, c'est à Waterloo que Jeanne d'Arc fut pendue. 6 fois 8, 24 et je retiens 12, la Loire prend sa source dans le trou de mon cul. Il était si con, le premier de la classe, qu'il était le seul à ne pas se marrer.
Même l'instituteur faisait des grimaces pour se retenir de nous imiter. Brave instituteur, il se rendit compte que la joie de vivre était un grand art. Un jour il l'a dit, sans en avoir honte, il fut renvoyé avant nous, peinard. Le premier de la classe, que tout le monde voulait être le dernier. Ça fait qu'il y avait un premier de classe, et tout de suite après, 43 derniers. Je vois, messieurs, dames, vos yeux qui s'affolent. Voulez-vous savoir ce qu'il en advint? Un beau jour, on vit sortir de l'école. 43 artistes et Giscard d'Estaing.
Le premier de la classe, Patrick Fonte, avant de retrouver André.
Je voudrais revenir, moi, sur la croyance qui était très enracinée chez les enseignants d'une émancipation par l'école. Ce sont les idées de Victor Hugo, très généreuses, les idées de la gauche, hein, du temps où il existait une gauche. Il faut permettre à tous les enfants d'acquérir de quoi devenir des hommes libres, des hommes qui réfléchissent, etc. Je partageais cette idée. Quoique j'étais assez réservé sur la possibilité que l'école dans laquelle je travaillais puisse arriver à ce train. Mais enfin, c'était quand même un but. Hein. Moi, j'ai beaucoup fréquenté des communistes. Et il s'agissait que les enfants du peuple saisissent la culture de la bourgeoisie, de l'ennemi de classe, afin de pouvoir le combattre efficacement. Et il y avait un grand respect des communistes à l'égard de la culture, à l'égard du savoir. Ça existait. Mon père était un ouvrier, mais c'était un ouvrier qui se cultivait en permanence, qui lisait. Et pour lui, c'était très important. L'école, c'était ça qu'il fallait faire. Et il y a eu quand même des réformes. La réforme Langevin-Wallon, etc., et la 1936-1945, qui visait à ça, c'est-à-dire à une démocratisation de l'enseignement. Longtemps, cette idée a prévalu, c'est-à-dire qu'il fallait que l'école soit accessible à tous les enfants. C'est pour ça, par exemple, qu'on a massifié, généralisé le passage en sixième. Rappelez-vous quand même que, si je prends 1968 comme date, il y a 12% des élèves qui vont dans les lycées, y compris les lycées techniques. Après 1968, on généralise l'accès au collège, puis au lycée, et on allonge les études, etc. Il y a de moins en moins d'enfants qui s'en vont après le certificat d'études, travailler. Mais cette idée, elle a été abîmée, parce que, en fait, pour moi, hein, dans une société de plus en plus inégalitaire, mais qui était déjà inégalitaire il y a 30 ans, eh bien, on ne peut pas avoir une école démocratique. C'est pas possible. De la même façon qu'on peut pas avoir une justice démocratique dans un état de classe où t'as une classe qui domine l'autre, etc., et où il y a injustice sociale. L'injustice sociale inhibe le rôle de l'école, inhibe le rôle de l'université, etc. On aboutit nécessairement à ce que tu viens de décrire, des écoles, des lycées, des universités pour les riches, et une pseudo-formation de base sans aucun débouché ni professionnel ni intellectuel, etc., pour la masse des enfants. C'était déjà dénoncé, je me souviens, par les syndicats il y a 30 ans de cela. Notre école est moins démocratique qu'en 1960, comprends ça. Elle est moins démocratique alors même qu'il n'y avait que 12% des enfants qui allaient dans les lycées. Elle était cependant plus démocratique parce qu'il y avait une promotion par l'enseignement technique. Ça existait, ça. Il y avait un CAP. Cette formation professionnelle permettait aux enfants de la classe ouvrière et du peuple d'accéder à une dignité et à une vraie formation technique et intellectuelle en même temps. Et les lycées de l'époque, que j'ai connus, moi, des lycées, j'étais dans les lycées à 12-13% de la classe d'âge qui allait dans les lycées. Il y avait effectivement une minorité d'enfants de familles modestes. D'abord, c'était un enseignement de qualité. Pour tous, y compris les enfants de familles modestes, contrairement à aujourd'hui. Et quand tu arrivais à l'université, tu avais la même formation que les enfants de bourgeois. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y avait plus d'enfants de la classe ouvrière à la Polytechnique à cette époque-là qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le filtre social est plus important.
Philippe, j'ai eu à la fois un fils et des petits-fils qui ont connu des échecs scolaires. Il y a des lacunes énormes. Avec mes petits-fils, leur vision de l'histoire est complètement déstructurée. Je me rappelle, il y a un de vos collègues qui est plus vieux. Quand il était au lycée, Il donnait un questionnaire à ses élèves en histoire et en géo pour voir des grandes lignes. Est-ce que ça s'est passé avant ça? Quand est-ce qu'il y a eu des chemins de fer? Quand est-ce qu'il y a eu des rois, etc.? Moi, je connais pas la date de chacun des règnes, mais j'ai une idée globale de l'histoire de France. Et je constate malheureusement que c'est pas le cas pour mon petit-fils Nathan, qui est en terminale, pour mon petit-fils Lenny, qui est en seconde, pour mon petit-fils Malo, qui est en sixième. C'est déstructuré, et des fois, j'ai peur qu'il n'en soit aussi de même pour les autres matières.
C'est comme ça qu'on va se retrouver avec plein de jeunes qui vont voter Le Pen, vu qu'ils ont l'impression de voter pour un truc nouveau qui n'a jamais été essayé entre 40 et 44. Merci, la casse de l'histoire. Là, Philippe, tu fais référence à un truc que j'ai subi, ce qu'on a appelé la réforme Abi, contre laquelle d'ailleurs Alain Decaux et nombre d'historiens s'étaient érigés. C'est qu'avant, on t'enseignait de la propagande, mais c'était au moins une propagande chronologique. Tu savais mettre Jeanne d'Arc après Vercingétorix et Napoléon après. Il a fallu que j'arrive en première à la fin des années 80 pour comprendre enfin à quoi servait cette matière mystérieuse et chiante qu'on appelait histoire-géographie. En quatrième, à un moment, il me semble qu'entre le charbon en Chine et les rois anglais qui découpaient la tête de leurs bonnes femmes, on m'a vaguement parlé de la Révolution française. Je suis sorti de là avec le 14 juillet, on a fait un arme de la liberté, on a guillotiné Louis XVI, et puis on te dit que c'est une révolution bourgeoise, mais on t'explique surtout pas ce que c'est qu'un bourgeois. Donc t'es vachement avancé avec ça. Ce n'est qu'arrivé au lycée Balzac avec le programme de première, où d'un seul coup, par magie, ça redevenait chronologique. D'un seul coup, l'année en septembre a commencé avec 14-18, et j'ai fini mon année de terminale avec ce qu'ils appelaient la décolonisation des années 60. C'était de la propagande, mais au moins c'était dans l'ordre. Mais jusque-là, l'histoire-géographie, mais pourquoi est-ce que je vais me faire chier à apprendre une carte des implantations de blé en Ukraine? Mais à quoi ça sert? Et d'un seul coup, j'ai compris à quoi servait l'histoire. Ça sert à savoir d'où on vient. Et quand un peuple ne sait pas d'où il vient, il peut pas comprendre où il est et il peut pas comprendre où on l'emmène.
Le problème, c'est que l'administration et la technocratie de la rue de Grenelle, ils drapent tout dans la démocratisation. C'est-à-dire qu'en gros, on fait des programmes très superficiels, où on touche à tout, parce que si on va trop loin, si on approfondit, les gens qui ont de la difficulté, ils vont pas comprendre les phénomènes, et vous les excluez. Et ensuite, quand on demande qu'est-ce qu'ils restituent et comment ils restituent, là, l'épreuve des E3C, c'est une épreuve de 2 heures, découpée en 2 sous-épreuves, avec un commentaire document sur des lettres de Mme Roland, et une question problématisée en 1 heure, où on leur demande de réciter un morceau de cours. En disant, oui, mais vous comprenez, ils ont des difficultés à écrire, donc il faut faire un truc qui soit accessible pour tout le monde. Quand j'étais en réunion, j'étais halluciné. J'ai dit, mais c'est pas de la démocratie, c'est de la démagogie. Parce que si en première, on n'exige pas d'eux d'être capable de mener un raisonnement un petit peu approfondi et d'être capable de restituer des connaissances de façon solide et organisée, ensuite, au bac, ils feront pas mieux. Voilà, il y a quand même pas mal de gamins, ils sont un peu feignants. Genre, moi, on leur demande, moi, ils en font. A contrario, quand on est exigeant, on leur dit, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Sinon, t'auras pas la moyenne, si on l'attaque aux notes. Et puis, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Au début, ils rechignent un peu. Il est chiant, Sauf qu'à la fin, ils disent merci, quoi. Moi, j'ai plein de gamins qui sont venus en disant, c'était génial, on a appris plein de trucs, on a compris plein de trucs du monde contemporain. C'est-à-dire que même si on parlait de choses qui avaient 50, 100 ans ou 1000 ans, quand on a fait les grandes révoltes du XVIIe siècle, moi, j'ai fait les révoltes du XVIIe siècle et j'ai ordonné un truc sur les gilets jaunes, quoi.
Bolchevique,
voilà.
En plus, tu es notoirement connu quand tu fais la Révolution française. Alors, tu nous expliquais, je crois que tu as 5 heures pour faire 1789-1815, interro comprise. Tu es notoirement connu quand tu enseignes la Révolution française pour monter sur le bureau pour chanter
la Marseillaise.
Monsieur Delaunay, le prof qui chante la Marseillaise sur son bureau.
Parce que voilà, il faut aussi les marquer.
L'analyse, ça marche bien.
L'analyse de la Marseillaise, c'est 1 heure. Parce que je reprends tout le texte de la Marseillaise, analyse, c'est 1 heure. Les chants lexicaux, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça se réfère, etc. Sauf qu'à la fin, j'ai la prétention de croire que la Marseillaise, quand ils l'entendront, ça tiltera dans leur esprit, ça leur rappellera quelque chose. Et expliquer tous les mots, ce que ça veut dire, etc. Ça prend 1 heure. Faire l'histoire du drapeau français, l'histoire de Marianne, des symboles républicains, la devise, liberté, égalité, fraternité. Moi, je reprends la déclaration des droits de l'homme et citoyen, celle de 1789, celle de 1793, c'est 2 heures. On reprend les articles, qu'est-ce que ça veut dire?
En quoi ça renvoie, par exemple, sur la liberté de croire, etc., sauf à abuser des conséquences de celle-ci. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, abuser de son droit à la liberté d'expression, etc. Et bah, ça, forcément, ça nous emmène aujourd'hui sur les questions l'islamisme, Charlie Hebdo. Alors, les gamins, tout de suite, ils tiltent, hein. Ah oui, bah oui, mais on n'a pas le droit de dire, ceci, au nom de notre religion et tout. Et les gamins, bah, ils sont vachement intéressés. Alors, on parle de 1789, on parle de la Révolution française, mais on parle d'eux aujourd'hui. Mais on fait pas ça en 10 minutes. Parce qu'on fait ça en 10 minutes, on fait « Ah bah, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a la liberté. » Hop, pst, chapitre suivant. Ah bah oui, on les enquille les chapitres comme ça. Sauf qu'à la fin, il reste quoi? Il reste rien. Ils savent que le texte a vaguement existé, mais bon, il y a eu une couche de charbon en Ukraine ou je sais pas quoi dessus, qui a balayé le truc. Et voilà, et hop là, au revoir messieurs dames, quoi. Tandis que là, quand on met une heure pour faire un Marseillaise, quand on fait deux heures pour faire la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ils ont retenu quelque chose. Du moins, j'ai la prétention de le croire. Et ce qu'ils me disent, et quand je les revois plus vieux, bon, je suis monté sur la table, c'était rigolo, quoi, parce qu'il faut faire un peu de théâtre, mais ça tilte. C'est ça qu'il faut faire.
Et voilà, les amis, c'est ici que se termine cette spéciale prof à réécouter sur notre site, polymixetlavoixoff.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM.